Faut que je m'approche, c'est ça? Uzeste, alors, chef-lieu poiélitique. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire poiétique plus politique. C'est ça, Bernard? Il exagère, hein, ouais. Oui. Ah oui, bon, d'accord. Il y a 2 ans, Sarah Millot et Julien Gourbeix nous ont montré ce film magnifique sur les mineurs qui s'appelle Flaky et Camarades, dû à Aaron Sievers. Ce film a été montré là-bas, à côté, là. Un film qui m'a beaucoup marqué. Je voulais vous en montrer un passage parce que ce film qui a été fait dans le cadre des luttes sociales liées à la situation des mineurs dans le nord de la France dans les années 70. On voyait dans ce film l'émergence d'un poème magnifique. Et c'est celui-là, malheureusement, que vous n'entendrez pas. À cette époque, je travaillais aussi sur le cinéma de Wang Bing, ce cinéaste chinois. Et je crois même qu'il y a 2 ans, j'ai fait ici même quelque chose sur Wang Bing. Et puis, une autre configuration qui a trouvé en fait son expression dans le cadre de nos rencontres d'artistes et associés, Grande Plage à Biarritz, c'était cette année, hein, je crois. Wang Bing. C'était ce document-là que je ne vais pas commenter, mais qui. J'ai pas de chance. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ça devrait partir, j'espère. Voilà. Je ne vais pas le commenter, mais pour moi, c'est la base, c'est une façon de vous dire, en fait, je continue un travail qui a été mis en place ici même et puis à Biarritz. Voilà. Il s'agissait d'une grève de mineurs en Espagne il y a 1 an.
Marca está apoyando muchísimo. Eso es impresionante el apoyo que hay de toda la gente de fuera. Muy fuerte. Hay un apoyo, pero 100% desde el primer día. Y dice, con el tiempo se va a cansar y tal, que va. Cada vez hay más apoyo y más fuerza y más ganas, porque todo el mundo ve que es una guerra injusta y que es una cosa. Es injusto para el pueblo y para la gente que vivimos en el pueblo, para los vecinos de todo el pueblo, lo ven injusto y ven que si esto se acaba, que ellos también se acaban, porque se queda el pueblo sin nada. ¿Eh?
Me parece que todas estas personas que están luchando por lo que quieren, se merecen todo el apoyo de todos nosotros, ¿no? Como para mí ha significado tanto estos cantes de las minas, es mi manera un poco de devolverle a la vida todo el favor que me han hecho ellos dándome este premio, ¿no? Y si la lámpara minera lleva algo de lo que su nombre indica, pues alumbra un poquito. Si ahora mismo estamos un poquillo desanimados.
Ay, Me paso el tiempo cantando.
Alors, ce qui m'avait beaucoup touché dans le film Flaquier et camarades, c'était comment, au cœur du problème le plus crucial pour les mineurs, il y avait le surgissement chez l'un de ces mineurs d'une forme poétique. Ce qui m'avait touché dans ce document-là, de cette jeune chanteuse de flamenco qui vient soutenir avec son chant. Qu'est-ce que ça veut dire soutenir une grève avec juste un chant ? Ce qui m'avait touché, c'était en effet la façon dont, non seulement dans le chant, mais dans sa lettre, dans son poème, elle manipule en même temps une forme très ancienne d'un chant de mineur qu'on appelle les mineras, et en même temps elle adapte ce chant très ancien à la situation présente, puisque même dans ce qu'elle chante, elle s'adresse directement au chanteur de Santa Cruz del Sil. Aujourd'hui, je vais me tourner vers un maître de ce rapport à établir entre poésie et politique. C'est donc Pasolini. Pasolini, parce que c'est quelqu'un dont tout le monde connaît l'implication politique. On connaît moins en France l'étendue considérable de son œuvre poétique qui n'a pas été traduite complètement. Mon point de départ, ça sera ce petit oiseau. Vous avez remarqué donc que dans le le fond de la mine où ces mineurs se sont reclus pour résister, pour occuper leur lieu de travail. Il y a cette cage avec ce petit oiseau. Et même ce petit oiseau, il chante pendant qu'elle, elle chante. Vous avez remarqué, peut-être. C'est une survivance d'une pratique ancienne dans les mines où, comme vous le savez, le grand danger à la mine, c'est le grisou. Le grisou, c'est un gaz inodore et incolore. Donc on peut pas le prévoir. On ne peut pas prévoir qu'il est là. Et puis s'il y a la moindre étincelle, évidemment, tout explose. Il était d'usage au 19e siècle de mettre des petits oiseaux comme ça dans des cages au fond de la mine. Et on pensait que ces oiseaux avaient une fonction prophétique du grisou. S'ils se mettaient à gonfler les ailes, les plumes plutôt, vous voyez, on se disait, oulala, il sent le grisou, il sent le grisou arriver, le grisou que nous ne sentons pas. Je vous propose comme hypothèse poyélytique que les images seraient comme ces oiseaux. Une image, quand elle se montre, quand elle gonfle ses plumes, quand elle tremble, quand elle pourrait nous prévenir d'un danger, ou si je le disais dans les termes de Walter Benjamin, un avertisseur d'incendie à venir. Souvent, les artistes, les poètes, les penseurs, sont des gens qui tentent de sentir, comme ces oiseaux, les explosions à venir, parce qu'ils sentent bien que dans une explosion à venir qui va être très violente, il y a déjà une explosion latente, une explosion lente. Il y a plusieurs temps dans l'histoire. Comme dans toute musique, il y a plusieurs tempi. Mon idée, c'est que Pasolini, c'est l'oiseau par excellence. C'est celui qui a senti le grisou mieux que quiconque. Et donc, je vais prendre un exemple très, très, très précis. Je vais être très modeste et très précis. Autant que possible, je vais vous décrire des choses concernant ce film de Pasolini qui s'appelle La Rabbia, la rage, qui a été donc, il a travaillé là-dessus de l'automne 1962 jusqu'au début 63. Le film est sorti en 63. Il est resté un seul jour ou deux jours dans les salles. C'est un film où il est question des explosions. Et le point de vue de Pasolini dans ce film, qui est donc un film de montage documentaire, mais qui est un film poétique, complètement poétique, et c'est ça qui me plaît tellement dans ce film, ce sont les deux aspects en même temps, c'est que donc pour lui, cette explosion, elle est là, bien sûr, il utilise des documents liés aux expériences atomiques de cette époque. Mais pour lui, l'explosion, elle est en cours. Il la sent comme cet oiseau. Je vous rappelle un petit peu les circonstances de ce qui a amené Pasolini à fabriquer ce film. C'était en été 1962, à une époque où un très modeste producteur de cinéma, qui avait d'ailleurs beaucoup de problèmes d'argent, il se disait peut-être je vais me refaire avec ça. Ça n'a pas du tout été le cas. Il s'appelait Gastone Ferranti. Ce type-là, il avait les droits sur une chaîne, on pourrait dire aujourd'hui, mais c'était pas de la télé, bien sûr. De ce qu'on appelle un ciné-journal. Il avait les archives d'un ciné-journal qui s'appelait Mondo Libero. Et à cette époque, donc, en été 62, et alors je vous rappelle, parce qu'il y a toute une histoire poético-politique, des documentaires de montage d'archives, Il y a un film absolument extraordinaire qu'il faudrait peut-être un jour reprogrammer ici, revoir. C'est le film Le fascisme ordinaire de Mikhaïl Rom. Mais c'est 1965, c'est plus, 3 ans plus tard. Vous pouvez penser aussi à ce qui s'est appelé des films tracts de Jean-Luc Godard, encore plusieurs années plus tard. Là, Pasolini est tout à fait quelqu'un dans une espèce d'invention d'une forme. Et donc, il se met, à partir de ce contrat passé avec ce producteur, il se met au travail sur l'amor viola, vous savez, la machine pour monter, la machine à monter. Travail énorme, parce que la quantité de pellicules, c'était 90 000 mètres de pellicules. Travail épuisant. Et comme vous m'excuserez, enfin, je tiens beaucoup à citer la langue de Pasolini. Si je prends comme point de départ qu'en fait c'est un poète, je vais donc citer son vocabulaire. Je le traduirai bien sûr, mais ça me plaît de le citer. Alors, quand il parle de ce travail sur la moviola, il dit que c'était un travail massacrante. Donc voilà, là j'ai pas besoin de le traduire. Et ce travail commence à l'automne suivant. Je signale aussi que tout ce travail a été fait en parallèle avec le tournage des chefs-d'œuvre de Pasolini, qui est La Ricotta, et qui n'est pas très loin d'ailleurs dans ces problématiques. Il a donc cette énorme archive de ciné-journal. Il utilise aussi une archive communiste, Italie-URSS. Et puis, comme vous le verrez, je vais vous montrer bien sûr le film, mais peut-être en morceaux. Je n'ai pas encore décidé comment je vais le faire. Ça dépend du temps aussi. Il filme des magazines populaires. Il filme aussi des catalogues d'art contemporain. Et vous verrez que ça a une très très grande importance. En septembre 62, à peu près au moment où il commence son travail de montage et en même temps le commentaire, c'est un très mauvais mot hein, pour parler de ces voix qu'on entend, je vais vous en parler aussi précisément que possible, Pasolini a publié dans une revue intellectuelle italienne qui s'appelait Vie Nuove, un texte programmatique. Il essaye d'expliquer ce qu'il veut faire dans ce film et je vais donc très modestement vous décrire ce texte qui n'a pas été traduit en français. Ça s'appelle le trattamento, comme on dit encore aujourd'hui. Je crois que les cinéastes, quand ils veulent proposer à un producteur un projet de film, il y a synopsis et il y a traitement. Le sens de ce film, pour lui, dit-il, c'est de travailler contre l'apparente normalité du temps qui passe. Le temps passe, tout semble bien. Pourquoi tout semble bien ? Parce que dans les années 50 et au début des années 60, on est dans ce qu'on appelle l'après-guerre. Donc c'est quand même beaucoup mieux. C'est l'après-guerre. Donc dans l'après-guerre, il se passe quelque chose que Pasolini appelle la normalité. Già, la normalità. Ah, bien sûr, la normalité. Après la guerre, après l'après-guerre, tout va mieux. Est-ce que ça veut dire que tout va pour le mieux ? Évidemment pas du tout. Mais ce que Pasolini veut dire, c'est que ce temps qui a l'air de passer tout seul à partir de ces temps tellement difficiles qu'ont été la guerre avant, eh bien ces temps qui ont l'air de passer tout seul, ils ne font que passer quelque chose qui organise en fait notre cécité, notre impossibilité à voir ce qui se trame dans cette apparente normalité. Je cite le trattamento. Dans l'état de normalité, on ne regarde plus autour de soi. Non ci si guarda intorno. Tout autour se présente comme normal. dépourvu de cette excitation et de cette émotion des années d'urgence, c'est-à-dire des années de guerre. L'homme tend alors à s'assoupir dans sa propre normalité. Il oublie de réfléchir sur soi. Il perd l'habitude de se juger lui-même. Il ne sait même plus se demander qui il est. Donc, la normalité, c'est ça le type qui sent le grisou. Tout a l'air normal, mais en fait, il y a une catastrophe insu qui est en train de se mettre en place. Cette catastrophe, je suis obligé de suivre le raisonnement de Pasolini lui-même. Il est un peu difficile à comprendre pour nous, Français, qui connaissons pas très bien l'histoire italienne. Je vais donc essayer de vous éclairer un petit peu là-dessus. Cette normalité, ce début de cette catastrophe souterraine, commence selon lui en 1954 à la mort d'un homme politique qui s'appelait Alcide De Gasperi. Et tout commence pour Pasolini avec ce qu'il appelle les funérailles grises de Alcide De Gasperi, les funérailles nationales. Alcide De Gasperi, c'était un homme extrêmement intéressant, c'était un philosophe. Il avait un doctorat de philosophie et de littérature. C'est un des plus importants combattants antifascistes. C'est en même temps l'homme qui a fondé la démocratie chrétienne. Donc ça commence à devenir compliqué. Il a été président du Conseil. Et je signale, pour ceux que ça intéresse, que c'est le protagoniste. Il y a un film entier de Rossellini qui s'appelle Anno Uno, qui est consacré au destin de cet homme. À partir de la mort de cet homme, qui était une sorte de garant, de toute façon, d'un temps de résistance, si vous voulez, commence ce que Pasolini appelle un monde de normalisation. Voici ce que Pasolini écrit dans son Trattamento. C'est ainsi que recommence, dans la paix, le mécanisme des rapports internationaux. Les cabinets succèdent aux cabinets, les aéroports voient constamment aller et venir des ministres, des ambassadeurs, des plénipotentiaires qui descendent la rampe des avions, qui sourient, qui prononcent des mots vides, stupides, vains, mensongers. Notre monde en paix régurgite une haine sinistre, et c'est l'anticommunisme. Et sur le fond plombé, déprimant de la guerre froide et de l'Allemagne divisée, se profilent les nouvelles figures des protagonistes de la nouvelle histoire, Khrouchtchev, Kennedy, Nehru, Tito, Nasser, De Gaulle, Castro, Ben Bella. Et là, je vous montre, à titre donc d'illustration, tout ce que je vous montre sont des photogrammes du film où on voit en effet Eisenhower, Khrouchtchev, De Gaulle, Nehru, Nasser, Bourguiba, Fidel Castro, entre autres. En même temps, c'est juste ce moment où ce que Pasolini a tellement bien vu, c'est-à-dire le développement de ce qu'il appelle déjà à cette époque le néo-capitalisme, dont les effets touchent toutes les sphères de la vie humaine, jusqu'au monde de la culture, qui est évidemment le monde dans lequel lui vit sa vie. Et dont quelque chose qui va depuis ces soirées d'opéra très très bourgeoises jusqu'à quelque chose qui fait problème pour Pasolini, qui est à la fois ce qui se passe dans ce qu'il appelle la culture haute, un monde où fleurissent donc des tableaux abstraits. Je précise que si je vous montre les tableaux, ici ce sont donc principalement des tableaux de Jean Fautrier, peintre français. Je vous les montre en couleur parce qu'il y a eu une restauration du film de Pasolini et que je ne vais pas vous montrer parce qu'elle n'a pas de sous-titres français. Mais le souhait de Pasolini, c'était que les œuvres d'art, les tableaux soient reproduits en couleur. Donc son film était à la fois en noir et blanc et en couleur. Culture haute d'un côté, et puis de l'autre côté, ce que Pasolini appelle la culture de masse, et que d'autres à l'époque, justement, Adorno, Günther Anders, dont on vous a parlé, ou Arendt, etc., d'autres, avaient appelé l'industrie culturelle. Voilà dès le départ ce que pouvait contempler Pasolini au fil de ces 90 000 mètres de pellicule tirés d'un ciné-journal italien des années 50 et du début des années 60. Et donc, je répète, une vision qu'il appelle massacrante, une vision accablante, qui pose évidemment à celui qui a envie d'en faire un montage la question suivante. Comment est-ce que je vais montrer tout ce matériau? Comment je vais arriver à faire voir ce que ces images, ou ceux qui ont fait ces images, justement refusaient de regarder? C'est une archive d'actualité, on pourrait dire officielle. Donc c'est une archive d'images qui refusent de faire voir. Comment donc faire voir avec ces images qui refusent de faire voir? Comment remonter tout cela pour, dans l'image elle-même, avec les images elles-mêmes, mais aussi, vous allez voir, avec de la politique, du texte politique, mais aussi, vous allez le voir, avec du texte poétique, comment démonter cette idéologie de la normalité, cette idéologie qui fait que ben, on vous raconte des choses où tout se passe pour le mieux et que quand ça se passe mal, en fait, on vous dit que ce sont des accidents, on vous dit que ce sont des catastrophes naturelles, comme exactement ça se passe, bien sûr, aujourd'hui. Je ne fais que parler d'aujourd'hui, hein, bien sûr. Je pense que Pasolini est un de ces petits oiseaux qui, voilà, qui a senti le grisou, qui continue là de nous envahir. Comment, en fait, montrer ce qui passe dans ce temps qui passe? Vous savez, quand on dit le temps qui passe, mine de rien, à savoir, par en dessous, ce danger d'explosion que Pasolini, dans son texte, appelle una eterna crisi latente, une éternelle crise latente, qui nous empoisonne, qui empoisonne l'histoire, exactement comme le grisou empoisonne les galeries de mines. Et c'est encore une fois la problématique de l'explosion qui est en jeu. La réponse à cette question, comment montrer ça, elle est extrêmement, je dirais, exposée. Elle est très simple, mais elle est un risque incroyable que prend Pasolini. La réponse à cette question, elle tient dans les mots, pas seulement la rage, mais en lisant le texte, le Trattamento, je précise, son expression, c'est la rabbia del poeta. La réponse à cette question, c'est la rage du poète. Pourquoi ce n'est pas seulement la rage? Cela, on le comprend dans la mesure où, vous savez, le montage qu'a fait Pasolini a été considéré par le producteur comme tellement gauchiste, si vous voulez, que le producteur a eu l'idée de faire soi-disant un film équitable, c'est-à-dire de demander à un type de droite, Giovannino Guareschi, c'est un réalisateur de films, c'est lui qui a fait Les Don Camillo, par exemple. Extrêmement détestable, son montage est absolument détestable. Je l'ai là, si quelqu'un veut le voir. Il y a donc eu une sorte de mise en pendant comme ça de ce qui avait été d'abord proposé au seul Pasolini, et tout à coup Pasolini s'aperçoit qu'on lui met un type de droite qui reprend les mêmes images et qui les monte. Alors s'ensuit une polémique. Pasolini ne refuse pas la règle du jeu, mais il y a une polémique, bien sûr. Et Pasolini écrit une lettre publique à ce Giovannino Guareschi, et il est très intéressant de voir que dans cette lettre, il lui dit bah, « En fait, vous aussi, vous avez la rage. On a tous les deux la rage. » Donc ce film peut en effet s'appeler « La rage », même le vôtre. Seulement, vous avez « una rabbia reazionaria ». Vous avez une rage réactionnaire qui n'est faite que de « brutezza », c'est-à-dire de « laideur », qui n'est faite que de « mediocrità », qui n'est faite que de qualunquismo, c'est-à-dire, on pourrait traduire ça par poujadisme, si vous voulez, qui n'est faite que de démagogie. Votre rage, elle spécule sur l'unanimisme, sur l'apparence de bon sens, etc. En vertu de quoi, Pasolini dit à la fin, écoutez, dans notre polémique, c'est certainement vous qui allez gagner. La rage de Pasolini, ce n'est pas juste une rage. C'est donc une rage poétique. Maintenant, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Elle n'est politique que dans la mesure où elle est d'abord poétique. Pasolini dit, en fait, moi, ce que j'essaye de faire en remontant toutes ces images, c'est de retrouver ce qu'il appelle uno stato d'emergenza. Emergenza, c'est ce qu'on lit, vous savez, dans les avions, c'est l'urgence, état d'urgence. En même temps, c'est un mot magnifique, bien sûr, parce que ça veut dire aussi émergence. Et c'est à la fois un état d'urgence et un état natif, un état de quelque chose. Et évidemment, c'est difficile, quand on est philosophe, de ne pas penser à cette notion d'Ursprung, de saut originaire, c'est-à-dire d'origine, le bon originaire tel qu'il est défini par Benjamin quand il veut parler des choses qui commence, des choses qui explosent. Mais justement, Benjamin avait bien pris soin de dire, ne croyez surtout pas que l'origine des choses est dans la source du fleuve. L'origine des choses, elle se trouve à chaque moment dans le cours du fleuve quand il y a un tourbillon. C'est ça l'Ursprung. C'est bien ça un stato d'emergenza. C'est un moment dans le présent où toute chose réapparaît soudain. Sous le jour d'une vérité inaperçue. La rage poétique, ça sert à ça. Ça sert à faire lever un état d'urgence et à le faire voir, c'est-à-dire ça a une fonction critique. Cet état d'urgence que veut constamment étouffer ce fameux état de normalité dont Pasolini parle dès le départ. Je vous fais remarquer, par exemple, pour insister sur l'actualité de ces réflexions, c'est que tout ce que dit quelqu'un comme Giorgio Agamben aujourd'hui sur la question de l'état d'exception, hein, de dire qu'on n'est pas dans un état normal, on n'est pas seulement dans un état de droit, on est dans un état d'exception déguisé sous les oripeaux de « tout va pour le mieux », etc. En fait, les réflexions d'Agamben viennent directement de cette façon de penser propre à Pasolini. C'est quoi une rage poétique? Une rage poétique, premièrement, elle est poétique. Il faut bien prendre acte que la rage poétique, c'est un acte de langue. C'est un travail dans la langue, dans le langage. On pourrait dire en termes philosophiques que c'est une décision quant au logos. Cette décision langagière, elle est donnée à ce travail sur les images qui s'appelle le montage. Le montage, c'est un logos pour Pasolini à ce moment-là, quand il en parle. D'où l'importance cruciale aussi des textes du commentaire, je vais vous en reparler, ce mot de commentaire en effet est très pauvre, ça va bien au-delà, d'où la revendication que lui, Pasolini, en tant que poète, parce qu'en 62, il a beaucoup plus publié de poèmes qu'il n'a fait de films, hein, il faut bien voir ça. L'œuvre poétique de Pasolini, si vous voulez, c'est l'équivalent de 4 Pléiades, c'est énorme. L'activité du poète, dit Pasolini à ce moment-là, toujours dans ce même texte, le Trattamento, c'est une pensée. Ci pensano i poeti. Les poètes, ils y pensent. Ils pensent. Et c'est ainsi que dans la rage poétique, il y a quelque chose de l'ordre de ce qu'il appelle une rabbia intellettuale, une rage intellectuelle, une rage théorique. Et il l'appelle même d'un mot magnifique qui évoque des grands philosophes italiens du genre Giordano Bruno, par exemple. Il appelle ça une furie philosophique. Le poète, c'est pas du tout quelqu'un qui va vous prendre, je vous en reparlerai samedi, une rose. Bah, y a rien de plus poétique qu'une rose. Mais le poète, c'est pas juste celui qui prend une rose ou un paysage ou un coucher de soleil et puis qui trouve les jolis mots, les mots plus beaux que les nôtres habituellement. C'est pas du tout ça la poésie pour Pasolini. Déjà, c'était pas du tout ça pour les romantiques. C'était pas du tout ça pour Goethe ou pour Baudelaire. C'est une des sources de Pasolini. L'autre source de Pasolini, c'est une source qui n'est pas romantique, mais qui est matérialiste, je dirais, c'est Brecht ou c'est Maïakovski, bien sûr. Je veux dire par là que faire de la poésie, c'est faire lever des problèmes. Problème, problemi, c'est lui qui dit ça. Des problèmes qui ne le laissent pas en paix. D'où sa rage poétique. Et les problèmes, c'est quoi ? Ben, je lis dans le Trattamento, je lis colonialisme, misère, racisme, antisémitisme. Deuxièmement, cette rage poétique, ben, elle est quand même une rage. Donc elle n'est pas seulement une décision, un acte de langage, c'est aussi un geste de cœur, de corps. C'est une rage. Donc le montage, la fonction dévolue au montage cinématographique dans ce projet de film relève bien sûr d'une décision quant au logos, mais il relève aussi, tout aussi bien, c'est plus difficile à assumer, mais Pasolini avait cette liberté de pouvoir le faire, c'est une décision quant au pathos. Ce mot pathos, qui est un magnifique mot de la langue grecque, tragique, qui a été malheureusement très dévalorisé récemment, mais qui n'est pas dévalorisé par Pasolini, bien sûr. Cela s'observe dans l'intensité des séquences, dans des images montées les unes avec les autres, dans la durée brève ou appesantie des séquences. Cela se manifeste dans la rythmique, dans la dramaturgie des rapports établis par Pasolini entre les séquences. Il y a beaucoup d'émotions dans la rabbia, mais c'est une émotion qui est mise en rime et qui est mise en rythme, en rime visuelle, soit des contrastes très très forts, déchirants, soit des affinités qui appellent le contact. En fin de compte, cette rage poétique se présente bien comme quelque chose, je dirais, de dialectique, une réalité à deux termes, ou une sorte de chose pulsative. Rien n'est unilatéral. C'est ce qui permet à Pasolini de voir le temps historique dans des aspects hétérogènes. C'est ce qui fait que, par exemple, dans ce texte, le Trattamento, il dit qu'il faut à la fois du distacco, c'est-à-dire du détachement, et il faut cette rage qui fait que, bien sûr, on se rapproche des choses. Les deux en même temps. Alors, avec ce jeu conjugué de détachement qui interprète et de attachement, contact qui s'émeut, Pasolini essaye de donner consistance sensible, visuelle, sonore, à des phénomènes historiques dont, à l'époque, il avait un vocabulaire, une intelligibilité. Hein, c'est une façon poétique, donc, de faire se retrouver le sensible et l'intelligible que les mauvais platoniciens veulent à tout prix séparer. Réunir ces deux choses à travers une observation de l'histoire qui est à la fois très singulière et, je le répète, parce qu'on ne peut pas oublier cette dimension-là, en 1962, Pasolini est dans le strict vocabulaire marxiste de la lutte des classes et en particulier de la contestation évidemment cruciale pour cette époque des États impérialistes et colonialistes, des luttes anticoloniales. Voilà ce qu'il écrit. « Tant que l'homme exploitera l'homme, tant que l'humanité sera divisée en maîtres et en esclaves, il n'y aura ni normalité véritable, ni paix véritable. La raison de tout le mal de notre temps est là, et aujourd'hui encore, dans les années 60, les choses n'ont toujours pas changé. La situation des hommes et de leur société est la même que celle qui a produit les tragédies d'hier. Vous les voyez ceci, donc il crée un champ contre champ, si vous voulez, dans son texte, et puis on le verra dans le film, qu'il n'a pas encore fait au moment où il écrit ce texte. Vous les voyez ceci, des hommes sévères en costume trois pièces, élégants, qui montent et qui descendent des avions, qui roulent dans de puissantes automobiles, qui siègent dans des bureaux grandioses comme des trônes, qui se réunissent dans des hémicycles solennels sur des fauteuils splendides et sévères. Ces hommes au visage de chien ou de saint, ces hommes au visage de hyène ou d'aigle, ceux-ci sont les padroni. On pourrait traduire les maîtres, si on a envie de penser en termes hegéliens. Et vous les voyez, ceux-là, les autres ? Hommes humbles vêtus de loques. Loques en italien, lambeau, loques, haillon, ça se dit stracci. Stracci, c'est le nom du héros de la ricotta. Hommes vêtus de stracci ou d'habits produits en série misérables. Hommes qui vont et viennent de par les rues grouillantes et sordides, qui passent des heures et des heures à un travail sans espoir, qui se réunissent humblement dans les rues, dans les bistrots, dans de misérables masures ou dans les tragiques bars d'immeubles. Ces hommes, au visage semblable à ceux des morts, sans signe particulier, sans lumière autre que celle de la vie, ceux-là sont les servi, les esclaves. Et de cette division, conclut Pasolini, naît la tragédie et la mort. Le montage du film va être donc la mise en forme, mais aussi la mise en forme visuelle, mais aussi la mise en rythme sonore, en timbre de voix, en rime, etc. En rime poétique, hein, tout à fait. Va être la mise en forme de cette division-là qui vient de raconter, cette division très simple, cette division politique, qui est aussi historique, qui est aussi même anthropologique. Ce sera donc un montage complètement dialectique, montage d'urgence et d'émergence, emergence. Un montage conçu toujours selon un double point de vue, selon une double distance, qui est tenu par toute une série de processus enchevêtrés, pratiques et théoriques, actes de pensée, décisions sensibles, intuitions intellectuelles. Et pour commencer, une chose qui me semble extrêmement importante, je suis toujours dans ce texte du Trattamento, c'est que Pasolini revendique ce film, il revendique ce film avec une modestie totale. Ça veut dire très précisément ceci. Ça veut dire que, en tant que poète, il ne va pas arriver et dire « moi, le poète, je parle », comme dans Lacan, là, « moi, la vérité, je parle ». Non, il ne va pas dire « moi, le poète, je suis prophète », même s'il sent le grisou. Il ne va pas dire « moi, le poète, je fais des vers, des belles phrases, je vais vous parler avec ma voix unique ». Et je vais dire la vérité. Et puis, il ne va pas dire non plus, moi qui manipule les images, moi l'artiste. Ça, c'est la leçon la plus fantastique. C'est-à-dire qu'il est poète, il est artiste, bien sûr, mais son premier geste, c'est de dire, je ne le suis pas. Je ne le suis pas parce que je fais un essai, je fais une tentative. Ce montage, ce n'est pas les images que j'ai tournées moi-même. Je vais donc faire une tentative. Et c'est très, très précisément ce qu'il dit. Il dit qu'il révoque explicitement, disons, pour aller vite, le rôle du grand artiste. C'est très intéressant parce que quand on connaît les textes de Pasolini, on sait qu'il était extrêmement inquiet de ce qui se passe dans l'avant-garde artistique, inquiet de ce que faisait Godard en France, inquiet de ce que faisaient les artistes du pop art américain. Et dans ce montage de l'Arabia, on a, à mon avis, une sorte d'allusion directe à Andy Warhol. Qu'est-ce qu'il faisait Andy Warhol ? exactement en 1962, la même année, Pasolini est allé à New York. Pasolini connaissait très bien tout ça, il connaissait même les films d'Andy Warhol. Pasolini dit, je ne vais pas faire les Disasters. Ça, c'est la série des désastres de Andy Warhol. Magnifique, hein, par ailleurs, picturalement parlant. Mais simplement, c'est une série d'œuvres où, comme vous le savez bien, Andy Warhol, en fait, s'approprie complètement les images communes, c'est-à-dire à tous les sens du mot, le bien commun, les choses qu'on trouve dans les journaux, et les choses communes, c'est-à-dire les choses banales, la banalité des accidents de voiture, des choses comme ça. Pasolini réfute complètement cette position, et on retrouve en particulier dans un texte beaucoup plus tardif, l'année de sa mort, donc 62, 75, ça fait 13 ans plus tard, il a écrit un texte magnifique sur Andy Warhol, qui est un texte très critique, où il dit ceci, le message de Warhol pour un intellectuel européen comme je suis, moi, Pasolini, est celui d'une unité sclérosée de l'univers dans lequel l'unique liberté est celle de l'artiste qui, substantiellement et en le dépression, joue avec lui cet univers. La représentation du monde chez Warhol exclut donc toute dialectique possible, dit Pasolini en 75. Elle est donc en même temps violemment agressive et désespérément impuissante. Ce que veut dire Pasolini dans ses phrases, c'est que si être artiste, c'est être le seul à être libre, alors ce n'est pas la peine d'être artiste. Grosso modo, il dit quelque chose comme ça. Il préfère faire des montages, comme il le fera à propos de Marilyn Monroe, dont je vous parlerai, je pense, demain. Et il dit, ben moi, mon travail n'est pas créatif, il est plutôt journalistique. Un'opera giornalistica più che creativa. Donc, je ne crée rien. Je ne crée rien. Ce que je fais, en fait, il le dit lui-même, c'est un essai, un saggio. On pourra discuter, je ne vais pas revenir, je me demande si j'en avais pas parlé l'an dernier ou il y a deux ans, sur cette notion d'essai qui me semble tellement importante, notamment telle que Adorno a fait un magnifique texte sur qu'est-ce que c'est qu'un essai. C'est-à-dire, un essai, c'est quelque chose qu'on essaye. C'est très modeste. Et justement, on ne prend pas la parole dans un essai comme on prend la parole quand on fait un discours de slogan, quand on fait un discours poético-prophétique, quand on fait un discours où on dit... Moi, je, l'artiste, je pense ça, je ressens ça, etc. Un essai, c'est plus modeste et c'est plus dialectique. L'essai comme forme, c'est donc une chose extrêmement importante, je ne vais pas y revenir, mais qui a traversé l'histoire du cinéma. Je rappelle l'importance en particulier de ce film de Michael Rom, Le fascisme ordinaire, dont je vous montre là. Un cahier de travail de Michael Rom sur ce film, mais vous avez des gens comme Esther Schoub en Russie, évidemment Dziga Vertov, ce sont des essais, mais plus tard, des gens comme Jean-Luc Godard font des essais de cinéma. Farocki, Haroun Farocki, Chris Marker. L'un des premiers en France à avoir fait des essais cinématographiques, c'est évidemment Alain René aussi. Pas l'oublier. Et aujourd'hui, en Italie, des gens comme Gianni Kian et Ricci Lucchi, par exemple, qui sont deux cinéastes merveilleux. Cette idée, en fait, elle vient des époques de la lutte antifasciste des années 20 et 30. Pasolini prend exactement au mot. D'après moi, il ne connaissait même pas ce texte. Je n'en ai en tout cas aucune trace, mais c'est extraordinaire à quel point ce que Siegfried Krakauer, grand théoricien du cinéma, grand critique du cinéma de l'Allemagne de Weimar, ami de Benjamin, etc., pouvait dire en 1931, c'est au fond exactement la règle du jeu que Pasolini s'est donnée. Krakauer écrivait ceci dans un article intitulé les actualités cinématographiques. Il y a quelque temps, une association cinématographique radicale disparu depuis, avait tenté de mettre sur pied, à partir du matériau disponible dans les archives d'images, des actualités cinématographiques qui soient vraiment une plongée dans nos propres affaires, qui nous concernent vraiment, pas comme elles le sont, telles qu'elles sont montrées et montées dans les salles de cinéma, et ce qu'on peut dire de la télé aujourd'hui. Elle a dû accepter les coupes de la censure et finalement elle n'a pas fait long feu. Cette expérience nous apprend en tout cas que composer différemment les images des actualités cinématographiques y gagnerait une plus grande, et le mot allemand c'est Schaukraft, Schau, la vue, Kraft, la force, une plus grande force de vue, une plus grande puissance de voir. Si tu arrives à démonter, à remonter, tu vas gagner en puissance de vue. Je dirais que la Schaukraft de Krakauer, c'est exactement la rage poétique de Pasolini, en tant que c'est une rage qui devient film, qui devient montage d'image. Le montage dont il est question, donc, dans le cas de Pasolini, parce qu'il y a ce mot en plus, rabbia, ça pourrait être la rage de voir, mais il rajoute qu'elle est poétique. Alors, on va dans cette réflexion qu'on peut déjà, qui est déjà en soi gigantesque, sur l'idée de, du cinéma, mais on pourrait dire la même chose d'autres formes d'art, bien sûr, mais du cinéma en particulier, en tant qu'essai, essai critique. Eh bien, il faut faire un pas de plus grâce à Pasolini et dire voilà un essai qui sera un essai en rime. Voilà un essai qui sera non seulement un genre critique, c'est-à-dire qui relève de la philosophie ou de l'intervention politique ou de ce que vous voudrez, mais qu'en plus c'est un genre poétique. C'est un essai en tant que genre poétique. Et c'est ça, moi, qui me... je suis juste au début d'une interrogation là-dessus. Je trouve cette question absolument fascinante. À la leçon de Krakauer, il faut évidemment ajouter la leçon de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, comme vous le savez, avait pris cette décision formelle absolument admirable de composer un livre d'images fait de documents photographiques de la Seconde Guerre mondiale, accompagné de leurs légendes factuelles et historiques. C'est ce grand texte que vous voyez là. Mais sur la page, comme vous le voyez, Brecht composait un poème bref, quatre vers, sur un modèle, et alors, bon, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est quand même extraordinaire de prendre une image d'actualité, hein, c'est quelque chose que Brecht a fait dans l'année 1943 ou 1944. Il garde la nature documentaire de cette image, mais il compose un poème qui est une épigramme, c'est-à-dire une des formes littéraires les plus antiques qui existent. Les épigrammes, c'est ce que vous voyez gravé en grec sur les tombeaux dans les musées archéologiques d'Athènes. C'est les poèmes qui s'adressent à celui qui vient visiter le cimetière. C'est donc une forme littéraire non seulement très antique, mais complètement liée à l'éloge des morts, à l'éloge funèbre. Je reviendrai là-dessus, bien sûr. L'opération revendiquée par Pasolini dans son film, donc, délègue à quelque chose comme une poésie visuelle, mais également verbale, je vais encore revenir sur cette histoire de commentaires, le pouvoir de mener un véritable essai critique sur le matériau des actualités cinématographiques de ces années 50, début des années 60. C'est-à-dire que la fonction critique, elle va passer par une fonction poétique. La vertu critique du montage n'est possible, dit Pasolini, que si on fait non seulement ce qu'il appelle de façon très marxiste à l'époque un décodage idéologique, mais si on accompagne ce décodage idéologique d'une puissance poétique, qui est la puissance qui permet de voir encore autre chose, dans tout ce que montrent sur le mode manifeste les images consensuelles du ciné-journal et même la façon dont nous, devant ces images, on peut prendre parti pour, contre, les méchants, les bons, etc. Ce qui n'empêche pas Pasolini de reconnaître, dit-il, ici, les visages des traîtres et ailleurs, ce qu'il appelle « il sorriso della vera speranza », le sourire de la véritable espérance, dans des manifestations de foule, notamment Alger libéré, etc., etc. D'autant plus bouleversante cette beauté inattendue qui surgit de toutes ces luttes politiques, qu'elle est inattendue, qu'elle vient d'un visage d'enfant, de prolétaire, et à la fin, d'ailleurs, il y a de très belles séquences sur les cosmonautes. Sourire du cosmonaute. Il y a, je trouve, un véritable courage dans cette entreprise de ce film, La Rabbia, parce que Pasolini accorde une confiance immédiate et pertinente, évidemment. Il accorde une confiance aux puissances poétiques et critiques du montage. Et là aussi, il se dit... En montant ces images, je vais procéder à une opération dialectique. Je serai à la fois sur un plan critique, je vais à la fois dire quelque chose, arriver à faire surgir quelque chose de l'ordre de ce que je crois être la vérité, c'est-à-dire une vérité qui passe au-delà de cet état de normalité dont je parlais tout à l'heure. Et puis, je vais me préoccuper, je vais essayer de faire surgir pas seulement de la vérité, je vais essayer de faire surgir de la beauté. Faire surgir de la beauté de quelque chose de terrible, faire surgir quelque chose d'émouvant, de quelque chose de très dur, faire surgir certains mouvements du corps dans la vision des corps bâillonnés, faire surgir des expressions de visage à partir des visages fermés par l'écran de la normalité, etc. En 1963, dans une interview au moment de la sortie du film, il dit ceci : « J'ai vu ce matériel d'image, vision terrible, une série de choses sordides, un défilé déprimant du poujadisme international, le triomphe de la réaction la plus banale. Et cependant, au milieu de toute cette banalité et de toute cette misère, de temps à autre, surgissait, dit Pasolini, ogni tanto, saltavano fuori immagini bellissime. Elle sautait, elle surgissait, on pourrait traduire. Saltavano fuori, elle sautait en dehors des images très belles. Par exemple, le sourire d'un inconnu, deux yeux avec une expression de joie ou de douleur, quelques séquences intéressantes pleines de signification historique. Et tout cela, précise Pasolini, et c'est très très important, très important. Tout cela dans un noir et blanc, souvent très fascinant visuellement. Parce que, en effet, la question de la lumière, la question de la qualité des images est bien sûr très importante dans le choix qu'il a fait de ces images. Bon, je résume un petit peu, je ne vais pas être trop long. Le problème qu'on va commencer de se poser, et puis je vais être en fait de plus en plus concret hein, dans ce que je vais vous dire et vous montrer pendant ces trois séances, c'est un essai en rime, c'est un essai critique. Donc, en tant qu'essai critique, le mensonge est pourfendu, on accuse la laideur, et puis on laisse place à une emergenza, à une urgence, une émergence de beauté, qui est en même temps lié à d'impérieux effets de vérité. Cela se construit donc au fil d'un extraordinaire montage d'images et de sons, des rimes visuelles, des rimes sonores, le choix des musiques par exemple, corps blanc, corps noir, des musiques de tous les pays, c'est assez rare à cette époque, et puis les voix. Je dois préciser, c'est extrêmement important, Quand vous prenez un documentaire lambda, en général, il y a des images. Par exemple, vous aurez des images d'archives. Vous entendrez parler Pétain, ou voilà. Et puis vous aurez un historien qui dit ce qu'il en pense, ou un commentaire off. Puis ça sera une voix. Ça sera une voix qui dit une vérité sûre. Dans le choix de Pasolini. Contrairement à ce qui sera plus tard, je ne sais pas, mais ne parlons pas de Godard. Dans le choix de Pasolini, il y a une dialectique des voix, c'est-à-dire il y a un dialogue de voix. Il écrit tout, bien sûr. C'est lui le réalisateur de ce film et c'est lui l'écrivain de ce film. Mais ce n'est pas une voix qui dit, qui surplombe les images. C'est au moins trois voix. On a dit que c'était deux, mais en fait, c'est au moins trois. Il y en a même quatre. C'est tellement important. Je pense que vous le sentirez quand je vous montrerai les séquences. C'est tellement important, ces voix, qu'au moment où il coupe le son, au moment où il y a un silence, c'est comme s'il y avait une explosion. Tellement ces voix font partie du film. C'est un film vraiment parlant. Mais parlant dans le sens où la parole y est échangée, c'est-à-dire partagée, c'est-à-dire distribuée. Trois voix au moins. Les premières voix, ce sont ce qu'il appelle, alors là, dans mon analyse, ce que je ferai ça encore demain, c'est-à-dire je vais vous montrer des images et je vais en même temps lire le scénario qui a été publié. Et c'est très intéressant de voir que le film final, il suit le scénario et quelquefois il ne le suit pas. Et c'est très intéressant de voir ce qu'il avait éventuellement voulu faire qu'il n'a pas fait. Ou, voilà. Donc, en lisant le scénario, ces voix, elles sont qualifiées comme au théâtre. Donc, la première, ça s'appelle, et c'est toujours au pluriel, hein, voci, celles-ci sont au pluriel, voci ufficiali. Les voix officielles. Les voix officielles, ce sont les voix du pouvoir. Ça veut dire les voix des journalistes qui commentent leurs images, parce que les journalistes, ils ont un point de vue qu'on leur demande d'avoir. Et ce sont aussi les voix des hommes politiques que l'on entend quelquefois, dont on entend la voix en son direct, avec leur prosodie particulière. On est toujours frappé comment les hommes politiques articulent, rythment. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on parle en général. Deuxièmement, il y a une voix qu'il appelle la voce in prosa, la voix de prose. La voix de prose, c'est la voix du contradicteur. Je dirais grosso modo, c'est la voix du marxiste. Elle est lue par un ami de Pasolini, qui était le peintre Renato Guttuso, qui est un peintre un peu comme les muralistes mexicains, si vous voulez, un peintre qui était au Parti communiste italien, ami de Pasolini, et qui a une voix très dure, qui a la voix, justement, de la prise de position politique. C'est donc la voix, cette voix de prose, c'est la voix critique par excellence, c'est la voix de la conscience politique. Par exemple, il avait prévu au début, ce n'est pas dans le film final, il avait prévu qu'on voit le retour des cendres des soldats italiens qui sont morts en Grèce. Donc c'est l'arrivée des soldats morts. Et il y a dessus une voix critique, la voix de Renato Guttuso, qui dit, espèce d'hypocrite, là vous faites une pompe funèbre pour ces pauvres soldats, mais vous les avez envoyés sciemment se faire tuer, ça ne servait à rien, c'était une guerre coloniale, etc. Voix sans affect, voix sans pitié. Donc, c'est une voix qui critique la voix officielle. Il y a une troisième voix, c'est la plus importante. Voce in poesia, voix de poésie. Pasolini la délègue à un autre de ses amis, qui est l'homme de lettres Giorgio Bassani. Vous savez, Bassani, c'est celui qui a fait ce fameux roman Le Jardin des Fizzi-Contini, par exemple. Et c'est donc un romancier italien. C'est lui qui double aussi Orson Welles dans La Ricotta. Il a une voix magnifique, très douce. D'ailleurs, c'est là une voix proche de celle de Pasolini. Vous vous souvenez, je vous montrerai un extrait de... Vous vous souvenez que Pasolini avait une voix extrêmement douce. Douceur, douleur. La voix de poésie dans le film L'Arabia, c'est une voix à la fois de douceur et de douleur. Elle a une tonalité élégiaque et évidente. Et c'est comme s'il fallait incarner, par ces contrastes de timbre et de rythme de voix, justement cette double face politique, poétique du film tout entier. J'ai écrit ce film, fait dire Pasolini en ouverture de l'Arabia, sans suivre de fil chronologique ni même logique, mais en suivant seulement mes ragioni politiche, mes raisons politiques, et mon sentimento poetico, mon sentiment poétique. Au moment où il dit ça, sur ses paroles, vous aurez donc, par exemple, cette espèce de danse des cieux avec la rime visuelle. C'est une rime visuelle. Vous avez dans cette séquence, on ne sait pas, c'est le soleil. C'est le soleil qui s'élève au milieu des nuages, mais c'est monté de façon à ce que ce soleil devienne en fait la clarté d'une explosion atomique qui va tuer le soleil lui-même. On aura donc un film entièrement en rimes, des rimes de paroles. Vous entendrez « Vincitori mediocri, bene male, bellezza, ricchezza », vous entendrez ça. Des ritournelles de mots, des choses comme comme dans les poèmes où on répète par exemple morire à Cuba, mourir à Cuba, mourir à Cuba. Tout cela se prononce sur des rimes de séquences visuelles rapides qui forment des rythmes et des rimes gestuelles, symboliques, formelles, des foules en deuil avec des foules en colère, des scènes de libération avec ou contre des scènes d'enfermement, l'écume de l'eau, avec ou contre les tableaux abstraits de Fautrier, le corps tournoyant d'une ballerine russe, avec ou contre le corps tournoyant dans l'air d'une artiste de cirque russe qui se produit dans une usine, des cadavres pendant la guerre de Cuba, des fêtes de la victoire, un bombardier français dans le ciel algérien qui est monté, montré avec et contre un enfant qui sanglote de terreur. Et là, il y a tout la voix de poésie. À France, la haine. À France, la peste, la vilenie. Un vrombissement terrible, stupide, irrespectueux. Une musique qui finit dans le trauma d'un enfant, dans un sanglot qui ébranle le monde. C'est bien plus beau en italien. J'ai traduit comme j'ai pu, parce que les sous-titres ne sont pas très, très bien traduits. Autant vous dire qu'à l'époque, en 62, c'était difficile de voir ce genre d'image en France. Tout cela soutenu par des basses continues, par des leitmotifs, notamment des leitmotifs de quelques images fixes, notamment, vous lisez dans le scénario, quadro fisso teschio, ça veut dire plan fixe, crâne. C'est une image qui revient souvent. Un crâne humain sorti de la terre. Et puis quelques séquences filmiques, comme les ébrures du ciel au cours d'une explosion atomique. Et dans une espèce de grand lamento visuel qui accompagne cet atlas en mouvement de toute l'injustice. Je vais vous montrer, ça va être très dur, parce que je vais l'interrompre. Je crois qu'il faut que j'arrête là. Je vais vous montrer le début, et puis on continuera. Pardon ? Vous voulez tout voir, mais non, ça ne sera pas possible. Il y a un spectacle après. peux mettre le son un peu plus fort? Merci.
Perché la nostra vita è dominata dalla scontentezza, dall'angoscia, dalla paura della guerra, dalla guerra? Per rispondere a questa domanda ho scritto questo film. Senza seguire un filo cronologico e forse neanche logico, ma soltanto le mie ragioni politiche e il mio sentimento poetico.
Addio, non vi dimenticheremo. Addio, i russi sono troppo vicini. Il 4 novembre un uragano di ferro, di fuoco e di morte si abbatte su un popolo che chiede libertà e rispetto della persona umana.
Neri inverni d'Ungheria, è scoppiata la controrivoluzione. Nere città d'Ungheria, i fratelli bianchi uccidono. Neri ricordi d'Ungheria, i fratelli borghesi non perdonano. Nera pace d'Ungheria, chiedono sangue per le colpe di Stalin.
Il ministro della difesa austriaco si intrattiene con i doganieri che sono passati dalla parte antirussa.
Nero sole d'Ungheria, le colpe di Stalin sono le nostre colpe. Se non si grida viva la libertà umilmente, non si grida e viva la libertà. Se non si grida e viva la libertà ridendo, non si grida e viva la libertà. Se non si grida e viva la libertà con amore, non si grida e viva la libertà. Voi, figli dei figli, gridate con disprezzo, con rabbia, con odio, e viva la libertà. Perciò non gridate e viva la libertà. Questo sappiate, figli dei figli, che gridate e viva la libertà con disprezzo, con rabbia, con odio. Nera serata di Parigi. La borghesia francese va alla Bastiglia. Neri boulevard di Parigi. I suoi leaders marciano come colonnelli. Neri presagi di Parigi. La libertà è diventata un dolore. Nero frastuono di Parigi. Bidot ha già in cuore il fascismo. Nero futuro di Parigi, la borghesia francese gridando muore.
Dopo che un corteo di cui facevano parte Pinault, Schumann, Bidot e altri parlamentari aveva portato fiori sotto l'Arco di Trionfo, la folla ha assalito la sede centrale del Partito Comunista Francese e l'ha dato alle fiamme.
Queste nevi erano dell'altr'anno o di mille anni fa, prima d'ogni speranza. Sono madri nostre, figli, nipoti,
vecchi parenti nostri, queste figure identiche sopravvissute dai giorni del pianto, che piangono. Il 43, il 44, essi sono gli anni di questo biancore e di questa emigrazione. Non erano trascorsi, erano qui, con le loro indelebili nevi, con le loro ereditarie lacrime.
Funebri estati di Allah, pattuglie egiziane sparano. Funebri silenzi di Allah, miserabili uomini di colore sparano. Funebre sole di Allah, in nome di mille popoli sottoproletari. Scoppia un nuovo problema nel mondo. Si chiama colore. Si chiama colore la nuova estensione del mondo. Dobbiamo annettere l'idea di migliaia di figli neri o marroni, infanti con l'occhio nero e la nuca ricciuta. Altre voci, altri sguardi, altre danze. Tutto dovrà diventare familiare e ingrandire la terra. Dobbiamo accettare distese infinite di vite reali che vogliono, con innocente ferocia, entrare nella nostra realtà.
Sono i giorni della gioia, i giorni della vittoria. Gente di colore, la Tunisia vive la liberazione. Si preparano anni di miseria, di lavoro, di errore. Gente di colore, e nella speranza che l'uomo non ha colore.
Gioia dopo gioia, vittoria dopo vittoria. Gente di colore, il Tanganyika è libero. Una povera libertà di cui l'Europa può sorridere.
Gente di colore, un'altra nazione dell'Africa è indipendente. Una libertà elementare con tutta la strada ancora da percorrere. L'unico colore è il colore dell'uomo nella gioia di affrontare la propria oscurità.
Cuba è libera. Gente di colore, è nella vittoria che l'unico colore è il colore dell'uomo. La vittoria costerà sudore, i nemici sono fra gli stessi fratelli. La vittoria costerà terrore, i fratelli attaccati al terrore antico. La vittoria costerà ingiustizia, i fratelli nella loro ferocia innocenti.
Mira patria, occupazione e lutteria, che tu padrona facita.
Combattere a Cuba, forse solo una canzone poté dire cos'era il combattere a Cuba. Combattere a Cuba, forse solo un ballo poté dire cos'era il combattere a Cuba. Combattere a Cuba era come combattere in mari inesplorati, fasto di guerre selvagge, combattere a Cuba. Ora Cuba è nel mondo. Nei testi d'Europa e d'America
si spiega il senso del combattere a Cuba. Una spiegazione feroce che solo la pietà può rendere umana, nella luce del canto, il combattere a Cuba. Morire a Cuba, forse solo una canzone poté dire cos'era il morire a Cuba. Morire a Cuba era come morire a Napoli o Siviglia, fasto di decessi miserabili, morire a Cuba. Ora Cuba è nel mondo, nei testi d'Europa ed America si spiega il senso del morire a Cuba. Una spiegazione feroce che solo la pietà può rendere umana, nella luce del pianto, il morire a Cuba.
Gioia dopo gioia, vittoria dopo vittoria, gente di colore dall'Africa a Cuba. Gente di colore, è nella vittoria che l'uomo non ha colore. È nella gioia che l'unico colore è il colore dell'uomo.
Voce dell'umorismo sciocco, della paura della cultura. Scatenati, è il tuo momento. Tira, tira il tuo sospiro di sollievo. Voce della quotidiana volgarità.
A quanto pare il jazz non conosce barriere e confini, perché affratella nel ritmo frenetico del cosiddetto divertimento gli uomini di tutte le latitudini e di tutte le fedi. Insomma, Gershwin e Armstrong hanno battuto Carlo Marx. Ava Gardner ama molto il nostro paese e tutte le occasioni sono buone perché in un ritaglio di tempo tra un film e l'altro si imbarchi su qualche aeroplano diretto a Ciampino, e anche quest'anno ha preso l'aereo per Roma. Dunque, bentornata Ava. La bellissima Sophia Loren, che si trova nel Polesine per girare un film diretto da Mario Soldati, si è recata in compagnia dell'attrice Liz Bourdin a visitare un lavoriero da pesca. L'affascinante star si è interessata alla lavorazione delle anguille, resistendo con un certo divertito disgusto allo sventramento dei capitoni. Le verdi acque dell'Arno, le quattro più antiche repubbliche marinare, Pisa, Genova, Amalfi e Venezia, hanno rievocato il tempo ormai remoto, disputando una competizione remiera a cui ha assistito il presidente. Per le vie di Pisa e per i lunghi Arni hanno sfilato i figuranti delle quattro repubbliche, prima quelli di Amalfi, poi Genova e ancora Venezia e Pisa. Rullare di tamburi, squillar alto di trombe.
Forse in molti paesi del mondo, certo il mio che si chiama Italia, il capitale si sente restaurato il giorno che può ricominciare a comprare.
Il risultato, quanto mai sintomatico, ha visto la vittoria nettissima, quasi clamorosa, dei sindacati democratici.
Comprare un operaio non costa nulla. Basta far balenare alla nobiltà del suo cuore un riconoscimento di nobiltà. È buon figlio, è buon padre, e vuole, disperato, anche lui essere spirito, far parte dei festini di chi non vive di solo pane. Può diventare cattivo come un cane fedele, il disperato operaio bianco, perché sa nel fondo della sua coscienza di non essere degno, e gli occhi gli brillano di una luce di fiele. Per una bandiera rossa tradita, un'effigie di Dio ritrovata. Ma l'oscurità della coscienza non richiede Dio, bensì le sue statue. La terribile forza dei farisei è non temere il banale e il ridicolo. È con commovente onestà che essi compiono il loro rito.
Il divin dono dell'acqua per il progresso si muta in numero. Per l'industria elettrica, ad esempio, l'eccitante orrido di una cascata si traduce in kilowatt e ampere. Ma una volta l'anno anche gli industriali, anche gli uomini che misurano perfino i fenomeni naturali in cifre e si fanno schiavi dei dividendi, diventano poeti.
Sì, voce degli industriali, voce della finta imparzialità. Essi diventano poeti, purché la poesia sia pura forma, voce dell'incoercibile formalismo.
La forma. Ormai gli industriali che diventano poeti hanno come vessillo un quadro astratto, la proterva forma della mancanza dell'anima. Ma questi mantelli come piccole montagne d'oro, queste corone come piccoli spiriti impietriti, chi l'avrebbe detto nel 45? A pensarci ci avremmo riso. Non era nel futuro socialista, ma non era nemmeno nel futuro neocapitalista.
2 milioni di persone hanno assiepato le vie di Londra per assistere al passaggio del corteo che avrebbe accompagnato Elisabetta II di Inghilterra all'abbazia di Westminster per la solenne cerimonia di incoronazione vecchia di 2000 anni.
Désolé. Je vous propose la chose suivante. Voilà, demain, on continue. Je vais parler d'une séquence particulière. Je vais vous montrer la suite. Je vais vous parler d'une séquence la plus magnifique pour moi. Et je vous propose de parler moins longtemps la dernière séance. Comme ça, on pourra discuter de tout, si ça vous fait plaisir. Voilà, merci.